Papi, arrive, c'est l'heure. Alors moi, je lui répondais, es la hora del murciélago. Cuando el ángel toca el ángelus. Cuando vuelve el segador, guadaña al hombro cantando. Es el grito de los niños. Es el mugir del establo. Es la gran luna de oro que en los pinares lejanos tiñe cristalinamente el abandono del campo.
J'ai toujours su que mon grand-père était espagnol. Je me souviens des poèmes et des chansons quand j'étais enfant, et il parlait souvent d'Espagne. D'ailleurs, quand j'avais 14 ans, il nous avait emmenés à Madrid pour nous raconter l'histoire. Mais j'ai compris l'histoire bien plus tard. En fait, je crois qu'à chaque fois qu'il la raconte, je la comprends un peu mieux.
Le bon Dieu m'a doté, je crois, d'une grande mémoire visuelle, dont je me souviens de mon enfance, je crois, depuis l'âge de 3 ans. Bon, mais écoute, je suis né au mois de septembre 1936 à Madrid. Et depuis 3 mois, c'était le bus militaire, que l'on qualifie maintenant de guerre civile d'Espagne. Et déjà, dès le mois de septembre, Madrid était sous les bombes. Alors, mon père était militaire, il était capitaine, il a fait toutes les batailles, et puis après ils ont été obligés de traverser la frontière. Et ma mère, elle travaillait à Madrid, et elle était culottière, et donc la seule qui s'occupait de mon éducation, c'était ma grand-mère, parce qu'elle avait elle avait des ambitions pour moi. Donc je passais tous mes temps de loisirs avec ma grand-mère dans les musées ou à l'opéra. Un jour, ma mère, quand je rentrais de l'école, me dit « Bon, prépare-toi, on va bientôt partir en France, rejoindre ton père. » C'était le 30 novembre 1947. On a pris le train, je crois, de Madrid jusqu'à Pampelune. Et nous avons été accueillis par la famille d'un réfugié politique qui était en France avec mon père. Et le matin de bonne heure, ils nous ont mis dans un car. Ils nous ont arrêtés à peu près à 50 mètres de la frontière. Et ma mère a demandé au chauffeur du car où c'était la France. Il nous a dit, écoutez, descendez, c'est là. Il nous a montré un chemin. Et on a pris ce chemin qui existe toujours encore. On a fait à peu près 50 mètres à pied en plein jour. Jusqu'à un petit ruisseau qui existe encore, un petit torrent de montagne. On allait le passer à pied, mais il y avait quand même un peu d'eau. Et de l'autre côté, il y avait un jeune homme. Et ma mère lui demande pour aller en France. Alors il a dit, écoutez, je vais vous aider à passer la valise. Il a pris la valise et de l'autre côté, il nous a fait passer à pied, bien sûr, sur ces gros galets. Et de l'autre côté, il y avait une vingtaine de côtés français. Et arrivé là, il nous a dit, mais voilà, vous êtes en France. Et ils nous ont fait descendre dans la cave où ils nous ont gardés toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Et à la tombée de la nuit, les propriétaires de la venta sont descendus. Ils nous ont, bien sûr, pendant la journée, ils ont donné à boire et à manger. Et ils sont venus nous dire, ça y est, les passeurs sont là. Et donc, nous sommes partis à pied à travers la montagne côté français, à travers champs. Et là, pour la première fois, j'ai réalisé que ce n'était pas anodin. Parce que j'entendais des bruits derrière moi et j'ai encore la vision. Quand je me retournais, je voyais comme un manteau immense avec plein de gens dessous. Et dès que je me retournais, ils se mettaient à genoux, ils se cachaient. Et on a entendu des sifflets. Les passeurs nous ont dit, oh, ça y est, ils sont là. Ils nous ont mis dans une voiture et ils nous ont amenés jusqu'à Bayonne. Et là, ma mère a retrouvé son mari et moi j'ai retrouvé mon père que je n'avais jamais vu physiquement. J'avais vu des lettres, mais physiquement je ne le connaissais pas. Et donc nous avons passé la nuit à Bayonne. Et le lendemain, nous sommes arrivés à Montmartre où habitait mon père avec un de mes oncles. Et là, j'étais scolarisé à partir de 1948 à l'école de Saint-Jean-d'Août. Et c'est là où j'ai commencé ma vraie vie en France avec mes amis de l'époque. Et moi, j'étais le petit réfugié espagnol qui ne parlait pas français. Alors, pour parler français, j'écoutais surtout. Alors, comme il se trouve qu'il paraît que j'ai une oreille qui retient beaucoup comme mes yeux. Alors, j'ai dit à mes copains, Écoutez, moi, je vous enseigne les maths, je vous corrige tout, mais vous, vous me corrigez le français. Donc, on troquait entre les copains. Eux, ils me corrigeaient mon français parlé, et moi, je leur enseignais la géographie physique et les maths. Et le grand mystère qui demeure encore pour moi aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais appris les règles de grammaire en France. L'instituteur pensait que je trichais dans les dictées parce que je faisais très peu de fautes. Et un jour, il est allé chercher le directeur de l'école, M. Roy. Et ben, ils m'ont fait passer au tableau. Il se sont rendu compte que je faisais une faute, demi-faute, quart de faute. Et il me disait, mais n'ayant pas de règles de grammaire, comment fais-tu pour parler, pour écrire le français? Et j'ai dit, écoutez-moi, quand vous parlez, moi je vois. Et je suis sorti, la stupéfaction générale, je suis sorti second du département. L'année où j'ai eu le certificat d'études, M. Roy, le directeur de l'école, m'a demandé, il m'a dit, que veux-tu faire? Alors, moi, tu penses, j'avais 14 ans, je n'avais aucune idée, je n'avais jamais pensé à travailler à quoi que ce soit. Et je lui dis, je veux être comptable. Pourquoi? Je n'en sais rien, je ne connaissais même pas le métier. Ah, il me dit, écoute, si tu veux faire comptable, il faudrait que tu ailles à l'école des arènes. Mon père ne voulait rien savoir, il ne voulait pas rencontrer des fonctionnaires français ou autres, alors qu'il parlait le français à la perfection. Mais arrivé en France, il était dégoûté de tout. Et il a dit, moi je m'occupe de rien, c'est donc moi qui ai commencé à m'occuper de la famille dès l'âge de 14 ans. Et donc, je serai tout seul rencontrer le directeur de l'école des arènes, M. Monteau. Et j'ai dit, bon voilà, M. Roy, le directeur de l'école de Saint-Jean-d'Oult, m'a demandé de venir m'inscrire chez vous pour en section commerciale. Ça s'appelait section commerciale. Et M. Monteau me dit, mais tu peux pas, je ne peux pas t'admettre en commercial parce que tes parents ne sont pas commerçants. Je suis revenu à Saint-Jean-d'Oult, puisqu'on habitait à Saint-Jean-d'Oult. Je suis allé voir M. Roy, qui m'a dit, mais écoute, viens avec moi, je t'accompagne. Il m'a accompagné voir le directeur des arènes, M. Monteau, et ils ont passé un deal. Monteau m'a dit, si tu es bon pendant le premier trimestre, je te garde, sinon tu t'en vas dans une autre école, tu fais autre chose. Et au bout d'un trimestre, il m'a gardé. Et lorsque j'ai passé le CAP, en 52, quelqu'un est venu, ce quelqu'un devenu mon patron, pour me dire, écoute, ça se développe beaucoup, j'ai besoin d'employés, est-ce que tu veux venir chez moi travailler? Ah, j'ai dit, oui, je viens chez vous, parce que moi, il fallait quand même apporter de l'argent à la maison, ma mère malade ne travaillant pas, ne parlant pratiquement pas le français, et j'avais deux sœurs et un frère qu'il fallait élever, puisqu'ils étaient nés, tous les trois sont nés en France, après 47. Et j'ai commencé à travailler le 15 juillet 1952. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler, ben il a fallu que j'officialise ma présence en France et j'ai eu ma carte de réfugié et apatride. Et tous les copains allaient être appelés. Moi, je me sentais un peu un paria par rapport aux autres parce qu'en tant que Français, ils allaient passer le conseil de révision et faire le service militaire. Et moi, à partir du moment où j'étais accueilli par la France, je dis, je vais faire comme les autres. J'ai demandé ma nationalité. Et j'ai été naturalisé français à l'âge de 17-18 ans. Et donc, après, j'ai retenu pour le service militaire. J'étais incorporé dans les parachutistes coloniaux. Et là, un grand ami qui était héros de Dien Bien Phu et grand officier de la Légion d'honneur, Bernard Cabirot, m'a dit, toi, tu vas pas faire la chair à canon en Algérie, tu restes ici, tu t'occupes de ta famille et tu feras ta vie en France. J'étais très vite nommé sergent. Trois mois après, j'étais sous-officier. Puis à un moment donné, avec la guerre d'Algérie, avec les signés qui étaient faits en Algérie, il manquait de cadres dans l'armée. Et en tant qu'appelé, c'est quand même relativement rare, j'ai été nommé major de la compagnie. Et voilà, pendant 28 mois. quand je l'ai rencontré, c'était un soir de 1er de l'an, mais j'étais, je crois, en civil. Et à l'époque, il y avait un dancing à Montmartre qui s'appelait La Pergola. Et il était avec une copine, et moi j'étais avec mes copains. Et puis on s'est rencontrés là, et puis bon, elle sortait avec un sergent parachutiste, et ce qui faisait la honte des gens à Montmartre, parce que sortir avec un parachutiste à l'époque, c'était risqué et osé. Et puis on est resté, 60 ans après, encore là.